Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
À 28, ah ça c'est comme le beau soleil dehors, hein? 25 à 28, et on avait vu trois choses qu'il ne fallait pas faire, et on va se les remémorer. Et la quatrième chose qu'il fallait revêtir, qu'il fallait se dépouiller, c'était au niveau des paroles. Donc, juste vous remettre un petit peu dans les versets 24, l'idée c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme. Donc, tout ce qui faisait partie de nos habitudes de vie, ce qui était dans nos vies qui n'était pas toujours beau, bien, le Seigneur Jésus nous appelle à se dépouiller de ça. C'est comme enlever un vêtement pour en remettre un autre. Revêtir et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Et là, ce qui est intéressant, créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, la parole de Dieu, par les instructions aussi, par l'effet du Saint-Esprit dans nos vies, va produire une sainteté. Et l'auteur n'a pas voulu nous laisser dans le flou, dans l'incertitude, en train de se dire, ouais, mais comment qu'on fait ça? Et c'est vraiment d'une façon très concrète que ça a été amené. Les paroles, hein? S'il y a un domaine dans lequel on doit faire beaucoup de progrès, c'est ce domaine-là. Tu sais, dans notre poursuite dans la sainteté, la semaine dernière, on a vu que, oui, on peut faire des progrès en ne volant pas, en ne mentant plus et en se mettant moins en colère ou en contrôlant la manifestation extérieure qui peut être blessante, la colère. Mais les mauvaises paroles, ça demeure, je pense, pour moi le premier, pour la plupart d'entre nous, un combat constant. C'est comme si les paroles de notre bouche sont associées à un fort potentiel de péché. Et la Bible nous parle de ça. Proverbe 10-19, hein, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, quand on parle, puis on se laisse aller, il y a des chances qu'on en échappe. Ésaïe 6-5, hein, ça dit, « Malheur à moi, je suis perdu. » Puis, devant la sainteté de Dieu, la façon de dire qu'il est un pécheur, c'est pas par rapport à des actions de ses mains, il va même pas au niveau des pensées qu'il y a un grand potentiel de péché. Il dit, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc, le péché est associé aux paroles de notre bouche. Même Jésus a dit que c'est pas ce qui entre dans la bouche, hein, ce qu'on mange, qui peut nous souiller. Ça peut nous donner un bon mal d'estomac, là. On est allé à la saison des barbecues, que si on fait pas bien cuire, ben il y en a qui ont des maladies alimentaires là, tristes. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. Car c'est du cœur que viennent les faux témoignages et les calomnies. Donc ça vient du cœur, ça sort de la bouche. Jésus a dit aussi que au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc, ça met le tableau pour voir que dans la sainteté, nos paroles, c'est un bloc majeur. Oui, on pourrait faire autant un autre bloc avec les pensées, parce que les pensées, c'est notre monde intérieur, là, ce qui sort pas. Mais ici, ce matin, on va vraiment mettre l'accent avec le verset 29 et également 31 sur les paroles. On veut veiller sur notre bouche. On veut que ce soit une bénédiction, tout ce qui pourrait sortir de notre bouche. La semaine dernière, on avait vu cette petite phrase-là qui revenait dans les trois premiers exemples, celle que vous avez en bas. Que celui qui mentait, qui volait, ne fasse plus ça, mais plutôt qu'il fasse ça afin de. Hein? Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille de ses mains afin de pouvoir donner. C'est comme une transformation complète dans plusieurs domaines. Et là, on est comme à l'ABC. Des fois, dans la vie ou dans la Bible, on peut trouver, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas clair. Ici, c'est des versets 26, 25 à 29. C'est très clair. Hein? Avant, tu faisais ça, puis ça faisait ça. Maintenant, voici ce qu'il faut que tu fasses et voici pourquoi. Donc, on est dans cette même expression-là. On va voir ce qu'il faut pas faire, puis ce qu'il faut faire. On peut dire qu'on est dans la communication 101. Des choses simples, mais des choses précises, des choses applicables dans nos vies. J'espère que au fil du message, j'allais dire « Ah ouais, ça me dit de quoi. Ah ouais, ça m'a rejoint. » Ça, un peu moins, mais que ça va être concret pour vous. Voici ce que vous devez faire. Donc, ce qu'il faut pas dire, puis ce qu'il faut dire. C'est quoi qu'il faut enlever, c'est quoi qu'il faut se dépouiller du vieil homme, c'est quoi les choses que maintenant, ça, on veut le pratiquer. Dans notre passage sur la sanctification, on doit se dépouiller. Et ici, la coupure se fait que aucune parole mauvaise de notre bouche. Et on sait combien il en est sorti des mauvaises paroles avant notre conversion. Et là, il y a comme une coupure. Hein? Pierre dit, c'est assez d'avoir dans le temps passé agi selon les convoitises. Maintenant, on veut faire une coupure, on veut faire un changement. On est instruit à se revêtir du cœur de Jésus. Et avec le cœur, c'est les paroles qui vont avec. Verset 29, hein, qui est tellement connu. Hein, vous pourriez le dire en même temps que moi. Vous avez le début, on l'essaye-tu? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui font deux choses, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça, c'est un verset que je disais souvent à mes enfants. Là, ils étaient tannés de l'entendre là, quand ça chicanait, ça criait. Là. Est-ce que ça, c'est des bonnes paroles qui servent à l'édification? À l'édification, puis ça communique-tu une grâce? Ça fait-tu du bien, là, ceux qui en... il était quand même assez réceptif. Ici, première étape, en disant qu'il ne sorte de votre bouche, c'est de mettre un frein, de mettre un genre de filtre qui va empêcher les mauvaises paroles de passer. Vous savez, des fois, on a des pensées qui sont vraiment mauvaises. On est enragé ou on est déçu. Puis là, si on ne se retenait pas, là, puis là, le Saint-Esprit, le Seigneur nous amène à dire, regarde, Seigneur, je vais te le dire à toi. Ou Seigneur, j'aurais le goût d'y envoyer ça en pleine face, d'y dire mes quatre vérités, mais non, Seigneur, ça, je suis peut-être un peu énervé, je suis peut-être enragé, donc je vais garder ça pour moi, puis je verrai dans une journée ou deux ce qui est bon de dire. Donc, de mettre un filtre, et on veut mettre un filtre, puis on veut aussi mettre une attention spéciale. Donc, l'idée, c'est de se retenir, de s'abstenir, d'avoir le désir de faire l'effort pour ne dire aucune parole mauvaise, parce que on pense à l'autre, on pense à son édification. On veut se dire, écoute, là, j'aurais le goût de me laisser aller, mais une journée ou deux plus tard, je vais-tu être fier d'avoir dit telle chose? Non, ben, je vais attendre. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche. On a un Thessaloniciens 5:22 qui dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Psaume 39:2 qui dit « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. » 1 Pierre 3:10 plus particulièrement qui dit « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, hey, on veut tout ça, aimer la vie et avoir la bénédiction de Dieu. » Une des trois caractéristiques qui est dit, c'est qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. On a le verset aussi qu'on a vu tantôt quand Ésaïe a été devant la gloire de Dieu, devant la vision avec les chérubins, les anges qui étaient là, qui se couvraient la face avec les ailes. Il a dit, malheur à moi, je suis perdu à cause de mon péché, de la bouche, de mes paroles. Parfois, on entend dire des gens, moi, ce que j'ai en dedans, tu vas avoir la vérité avec moi, je vais te le dire. Il faut que ça sorte. Hein? Moi, je dis ce que je pense, je ne suis pas un hypocrite. C'est pas bon, garde ça en dedans, avec moi, tu as la vérité. Tu sais, il y a une part de vérité dans ça. Il y a une part de vrai que parfois, on est appelé à dire les choses, mais quand ça sort puis ça blesse, il y a un fil qui doit être là. Est-ce que ça sert à l'édification? Est-ce que ça encourage? Est-ce que la situation va s'améliorer? Est-ce que les personnes qui m'entendent parler comme ça vont être bénies ou est-ce que je mets de l'huile sur le feu puis que la situation va être pire? À propos des mauvaises paroles, il nous est dit de s'en préserver. D'autres versions disent de réfréner sa langue, de se garder de dire du mal. Donc, ici, l'idée qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, il y a vraiment cet aspect d'un frein à notre bouche, un filtre. On a des passoires des fois, là, quand on fait cuire du poulet, on veut un bon bouillon, on ne veut pas des petits morceaux d'os. On garde les choses qui ne doivent pas passer. Donc, nos paroles devraient passer par cette passoire-là qui retient ce qu'on ne veut pas qu'il sorte nécessairement. Ça nous dit donc qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Et on veut prendre le temps de faire une description. C'est quoi ces mauvaises paroles-là qui peuvent pas dire? On veut, autant on est dans la communication 101, autant on veut que ce soit concret, hein, ce qu'il ne faut pas dire puis ce qu'il faut dire. Ben, on va identifier d'une façon assez précise les choses qu'il ne faut pas dire. Donc, les paroles mauvaise, c'est des propos malicieux, diffamatoires, des choses qui attaquent la réputation des gens, tout ce qui blesse, qui crée des disputes, ça peut être des paroles basses de mauvais goût. C'est d'ailleurs, j'aime beaucoup comment la parole vivante, qui est une des versions de la Bible plus nuancée, avec des belles expressions, voici comment il rend le verset 29. Refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos méchant, inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Oui, c'est le petit bout là du verset 29. Donc, c'est ça qui est le fun. Il explique puis il en met davantage. Ici, c'est l'ensemble des mauvaises paroles qui est visé. On veut en faire un petit tour. On commence avec la critique, les murmures, les plaintes. Dans Pierre, on a deux beaux petits versets. Hein? Ne parlez point mal les uns les autres. Donc, on est en train de, de chialer les uns contre les autres. Lui est comme ci, elle est comme ça, elle a prophétie. Les Québécois, on peut dire qu'on est un peuple en général, qu'on est des bons chialeux. Hein? On n'est pas méchant, je trouve qu'on est même patient, tolérant, mais autant on est capable d'accepter des choses qu'on devrait pas, autant pendant ce temps-là, notre échappatoire, c'est de se plaindre puis de chialer un peu contre tout le monde. Ne vous plaignez point les uns les autres. Et 1 Corinthiens 10:10 aussi qui dit, ne murmurez point, hein, comme murmurèrent le peuple d'Israël qui a péri dans le désert. Ils murmuraient contre Dieu. La critique, c'est manifester notre insatisfaction face aux gens et aux circonstances. Puis c'est les exprimer d'une façon négative et des fois injuste. Hein? C'est pourquoi la plupart du temps, les critiques sont injustes. Pour ça que on a la belle petite expression « Ah, mais c'était une critique constructive! » On a besoin de mettre constructive à côté de la critique parce qu'ils sont rarement constructifs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réalités de la vie. On a tous des goûts, des préférences, des façons de voir la vie. Puis quand ce qu'on veut n'arrive pas, quand la façon qu'on aimerait que se passent les choses, ça n'arrive pas, on a quelques choix. Puis un de ces choix-là, c'est de critiquer, c'est de se plaindre, c'est de murmurer. Et il y a une façon d'adresser la situation. Hein? J'aime cette expression-là que j'applique pour ma vie. Je dis, Richard, au lieu de chialer puis de juste endurer, pourquoi tu n'adresses pas la situation? On peut en parler à la personne, on peut voir comment ça peut être amélioré. Donc, aucune mauvaise parole, ça c'est une des façons, une des mauvaises paroles qu'on veut identifier. Une des façons très pratiques de ne plus critiquer, c'est de parler comme on prie. À Québec, il y a de cela 30 ans, j'avais un bon frère, il aimait le Seigneur, mais il était un peu rabougri, puis c'était un gars qui avait servi sur les bateaux, s'était fait faire des gros tatouages là, dans les années 50, 60, puis tu sais, la grosse barbe, la grosse voix, puis c'était, puis tu sais, il se plaignait un peu, il se gênait pas. Mais c'était tellement une transformation quand il se mettait à prier, fermer les yeux. Le timbre de la voix changeait. Puis là, il tombait, puis ce qu'il faisait dans ses prières, il remerciait. Il remerciait. Et je lui ai jamais dit, je voulais pas le blesser, mais ce qu'il me venait de dire, il devrait parler comme il prie. Puis ça s'adresse à chacun d'entre nous, hein. Quand on sombre dans la critique, dans les murmures, les plaintes, on devrait un peu plus parler comme on prie. Et la plupart du temps, on demande au Seigneur de nous aider. On peut lui parler de ce qu'on vit. Mais à la fin, on remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. On peut le remercier qu'il est au contrôle de la situation. Donc, un premier type, les critiques. Deuxième, les commérages, hein, le bavardage, et ça prend plusieurs formes. Ça peut être simplement de dire son idée sur les gens. Hein? « Ah, oh, je trouve pas que lui est vraiment engagé, je trouve pas qu'elle soit sincère, je pense pas ci, je pense pas ça. » Puis, quand on fait du commérage, si vous êtes toute seule, là, c'est pas du commérage. Vous êtes juste en train d'exprimer trop tout haut, puis vous parlez à vous-même. Donc, quand on fait du commérage, il y a une personne qui parle, puis l'autre qui écoute, et souvent la responsabilité est aussi grande, quoique ce n'est pas la personne qui le dit, elle est presque aussi grande à celle qui écoute, parce que celle qui écoute, tu sais, vous pouvez écouter une minute, deux minutes, là, mais là, ça fait cinq minutes, ça lâche pas. Penses-tu que c'est une bonne chose que tu parles comme ça de ces gens-là? Et là, ça, Là, ça saisit, il y a un froid, là, il y a quelque chose qui va se passer. Si c'est un frère, une sœur, il va me dire, ouais, c'est vrai, j'étais un peu négatif, là. Donc, commérage, bavardage. Un de mes premiers pasteurs m'avait dit, Terry, que j'aime encore de tout mon cœur. Il dit, si tu peux pas dire du bien d'une personne, n'en parle pas. Donc, d'essayer d'être constructif, d'être positif. Quand on parle de mauvaises paroles, il y a la médisance qui est dire du mal de quelqu'un, des choses qui sont vraies. Donc, quand on fait de la médisance, les choses qu'on dit, ah oui, ça, sont arrivées, mais en même temps, on est obligé de les exposer au grand jour. On est obligé de dénigrer ces gens-là, puis de les rabaisser, puis de les blesser encore plus. Donc, de la médisance. Mais il y a aussi la calomnie. Calomnie, là, tu dis du mal, mais qui n'est même pas vrai, qui n'a pas été vérifié. C'est toi qui as déduit ça, ou tu penses ça, ou tu t'imagines, puis tu le dis à tout le monde comme si c'était un fait avéré. Et quand on va vérifier, ce sera même pas vrai. Donc, une imputation mensongère qui attaque la réputation et l'honneur. Vous savez, quand on se ferme la bouche dans des situations difficiles, quand on met un fil qu'on dit juste qui doit être dit, puis que le reste, on le garde, on s'évite bien du trouble, dont celui de dire des choses qui sont fausses sur quelqu'un. Celui qui fait du bavardage, du commérage, souvent, son but, c'est pas la justice. Il prend pas la peine de vérifier les faits, de rencontrer la personne concernée, de prendre sa version d'histoire, prendre le temps d'écouter, de vérifier. On va dire dans ce temps-là des faussetés sur le compte d'une personne et on commet vraiment un tort irréparable. Donc, faisons attention au bavardage, au commérage. Vous savez, dans nos vies, on a des habitudes et on a des habitudes de communication. Et si on commence à s'habituer à commérer, à bavarder, à un moment donné, on ne le réalise même pas qu'on le fait. Et c'est là qu'en tant que frère et sœur, on peut avoir vraiment un rôle positif, pas en s'accusant puis en disant, toi, tu fais... T'es sûrement qu'un chialeux, t'es toujours en train de parler mal des autres, mais de juste, en amenant la parole, de juste dire, écoute, es-tu bon pour cette personne-là? Es-tu bon pour toi que tu t'habitues? Tes enfants t'entendent parler comme ça. Il me semble que t'es capable de parler mieux que ça. Le Seigneur veut t'aider à avoir des bonnes habitudes de communication. Le rapportage, on va dans une catégorie un peu plus spéciale, vraiment précise. Du rapportage, c'est quand on dit du mal qui est vrai, mais que si ça arriverait à notre mari, à notre épouse, à notre enfant, on ne voudrait pas autant le répandre. Donc ça, c'est une forme plus de bavardage. Mais quand on va avec le rapportage, c'est que on parle pas à la bonne personne. Et il arrive une situation qui concerne toi et l'autre. Et là, tu fais un triangle. Au lieu que ce soit une ligne comme ça, tu fais un triangle, tu vas en parler à une autre personne. Tu as vu une action d'un frère, d'une sœur, qu'il semble c'est pas chrétien de faire ça, il me semble c'est répréhensible. Et là, au lieu d'avoir le courage de dire, mon frère, ma sœur, je t'ai vu dans telle situation, veux-tu m'expliquer? Je me fais toutes sortes d'idées. Donc là, tu vas voir la personne. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui. Là, tu donnes l'occasion de bien faire les choses et tu le vois, cette situation-là, tu n'en parles pas, et là, tu vas voir une, deux, trois, quatre, puis là, tout le monde est au courant, sauf toi, puis tu es le dernier, puis tu es pris avec ça. Et quand ça arrive, on est vraiment blessé. On dit, où est l'amour? Où est le respect de base? Si la personne avait eu le moindre intérêt envers moi, elle aurait pris la peine de venir m'en parler. La parole dit, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Hein? C'est lui qui se plaît à le dire à un, à l'autre, puis là, tout vient mêlé. Proverbe 26:20. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc, le rapportage, et je vous dirais que, comme chrétien, s'il y a un défaut qu'on a, les églises, les chrétiens, qui a causé le plus de tort depuis presque les 40 années que je suis chrétien, je dirais, c'est lui, c'est le rapportage. C'est le fait de ne pas parler à la bonne personne. Tu vois quelque chose, tu en parles à tout le monde, puis à un moment donné, c'est trop gros. On n'est plus capable de... Ce qu'il faut faire, dire la bonne chose à la bonne personne. Non, c'est tellement simple. Tu dis la bonne chose à la bonne personne. Moi, j'ai appris avec le temps, quand les gens... Quand j'enseigne des choses de même dans une église, là, quand j'ai commencé à Shawinigan, avant, les gens venaient me voir, puis je les écoutais trop. J'étais un jeune pasteur, puis je faisais beaucoup d'erreurs. Puis parce que je les écoutais trop, les gens pensaient que je les appuyais, mais je les appuyais pas. C'était juste, je savais pas comment réagir. Mais à partir du moment qu'on enseigne ces choses-là, dis la bonne chose à la bonne personne. Si vous venez pour vous plaindre d'une autre personne, je vais vous écouter. Tu sais, avant de reprendre, il faut que je sache c'est quoi que vous dites. Mais à un moment donné, l'idée, c'est comme, moi, je m'appelle Richard. Je m'appelle pas Zacharie ou Antoine ou ça veut dire va parler à Antoine ou à Zacharie. Fais les choses comme il faut. Dis la bonne chose à la bonne personne. Et ça, c'est une petite phrase, mais c'est une grande leçon. Dans les églises, hein, on est comme avec le jeu du téléphone. Un dit quelque chose à un autre, après ça, ça se promène, puis au bout du compte, là, tous les fils sont mélangés. Puis quand tous les fils sont mélangés, c'est comme nos relations qu'on essaye d'arranger les choses. Puis c'est comme quand on va à pêche, des fois quand on va à pêche à mouche ou même avec les trolls, à un moment donné, c'est tellement mélangé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec notre fil? Il faut qu'on coupe, puis là, on recommence à faire tous nos anneaux, puis là, c'est long, hein? Moi, je me souviens des fois, ça mord, puis c'est tellement mélangé que là, tout le monde attrape du poisson, puis là, je suis là avec les mouches à refaire mon fil. Et c'est comme ça, des fois, dans nos relations. Donc, éviter, on a toute tendance à ça, et on peut tous pécher, moi le premier encore, même si je connais la théorie. Mais on veut viser à ne pas faire de rapportage. Si on parle d'une situation, ben on va en parler à la personne concernée. Et souvent, le Seigneur va amener des grandes bénédictions par ça. Un autre type de mauvaise parole, hein, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, c'est les méchancetés qui sont nommées au verset 31. Que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous, puis celles qui sont mentionnées, les quatre, l'amertume, l'animosité, la colère et la clameur. On peut dire même qu'il y en a cinq, et on a le passage parallèle en Colossiens 3:8 qui nous décrit aussi ces mauvaises paroles-là. Si on commence avec l'amertume, c'est de la rancune, de la rancœur accumulée qui rend le cœur triste et malheureux. Et le refus de pardonner qui permet à l'amertume de grandir, eh bien, ça remplit la personne. Et après ça, la personne est comme un vase, là, c'est le vase de son cœur, il est plein jusqu'au bord. Fait qu'aussitôt que tu le brasses, là, ça va déborder. Puis ça va déborder comment? Par des paroles. Il arrive telle situation, tu dis, oh non, moi j'ai de l'amertume, mais regarde, là, j'en parlerai pas à personne, je vais garder ça pour moi. Puis là, il arrive une petite situation, là, t'es shaké, puis tu vas en parler. Tu dis, ah oui, ça me surprend pas, avec moi il m'a fait ça, puis il est arrivé ça me surprend pas d'elle. Donc, l'amertume qui souvent va se traduire par des mauvaises paroles. L'animosité, c'est des sentiments hostiles. Une passion destructrice, c'est la même idée que la colère, c'est la manifestation de la colère. Tu es hostile envers une personne, puis quand tu vas lui parler, tu n'auras pas un ton doux et accueillant. Hein, ça dit que toute colère, des mauvais sentiments, quelque chose qui grogne à l'intérieur de nous, là, on est, c'est comme un volcan qui gronde et qui peut laisser sortir de la lave. Clameur, hein? De ce temps-là, qu'est-ce que font les Québécois envers les Canadiens? On les acclame quand on écoute, là, il y a 2500 personnes là qui vont avoir dans le Centre Bell, mais quand on est devant notre téléviseur puis que Carey Price fait un arrêt ou que Toffoli a compté le but, là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais! On crie, c'est ça, des clameurs. Mais on peut faire des cris positifs comme ça, mais on peut faire aussi des clameurs qui sont des cris de colère, des choses qui affectent, qui sont une agression envers ceux qui les reçoivent. Donc oui, on peut acclamer le Seigneur avec joie, mais faisons attention de laisser sortir ces clameurs-là qui attaquent les gens. Un autre, c'est la calomnie, hein, qui est encore mentionnée, on l'a dit, faire une mauvaise réputation en tenant des propos malveillants. Alors, je sais pas, on va finir notre liste des mauvais propos. Après ça, on va aller dans le positif. Les grossièretés, c'est des paroles déshonnêtes, contraires à la bienséance, inconvenant, indécent, des paroles qu'il ne faut pas dire. Et vous dites paroles équivoques, c'est où? C'est juste un petit peu plus loin, hein, la fin du chapitre 4, puis on serait en Éphésiens 5, versets 3 à 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Et dans une version, ça dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoque. Équivoque, c'est à double sens. Vous savez, quand on fait des farces, là, puis qui ont un sens, là, qui est évident, puis il y a le sens caché, que lui, tu sais, c'est, on s'éloigne de la sainteté dans nos paroles. Les choses qu'on entend dans le monde qui ont vraiment pas leur place dans la bouche d'un croyant, que ce soit par rapport à des allusions à la sexualité, mais des propos vraiment déplacés. En tant que chrétien, il y a une place, hein, pour être joyeux, pour faire des farces. Je me souviens toujours d'un frère qui était merveilleux à Shawinigan. Il conduisait le culte toujours une fois par mois, puis il faisait toujours 2, 3, 4 jokes, mais c'était toujours de bon goût, puis ça nous mettait dans une ambiance de joie. Donc oui, il y a de la place pour un bon humour pour les chrétiens, des jeux de mots intelligents. Oui, on peut s'amuser, hein, faut pas que je fasse de farce, faut pas que je dise des choses à double sens. Non, on peut parler, mais on peut, sous prétexte de dire que c'est une farce, dire des mauvaises choses. Hein. Des fois, on s'envoie des pins, on voit ça. Il me semble la société s'est un peu améliorée, mais là, 20-30 ans, dans la société, dans l'Église, c'est comme si on attaque quelqu'un, puis on y rentre dedans, puis là, à la fin, on rit, puis on dit, ah, ouais, on dort ça. C'est rien qu'une farce, rien que pour t'amuser. Ben, mais la personne qui a reçu ça, elle dit, sais-tu, peut-être que tout le monde rit, mais j'ai l'impression qu'il rit de moi, puis moi, je trouve pas ça drôle du tout. C'est pas le fait qu'à la fin, tu as dit, ah, oh, c'est une farce, fais-toi-en pas. Qui aime bien, châtie bien. Faire attention aux propos équivoques à double sens. C'est pas parce qu'on dit que c'est une farce que c'est drôle. Pis si c'est une mauvaise parole, si c'est grossier, c'est déplacé, on a besoin de penser à ce qu'on dit, hein? Dis ce que tu penses, puis pense à ce que tu dis. Puis si tu as le petit réflexe, là, deux secondes pour y penser, tu dis, je suis pas sûr que la personne concernée va trouver ça drôle. Oh, regarde, je vais m'abstenir. Tu as dit ça sans penser, hein? C'est sorti tout seul. Eh bien non, le Seigneur est appelé à être sous le contrôle de l'esprit, comme on a vu tantôt dans Galates 5, hein, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la bonté, la bienveillance, la douceur. Donc, on communique de l'amour aux gens et non pas des paroles qui blessent. On a tout un travail à faire pour empêcher toutes ces choses de sortir de notre bouche. Rappelons-nous que ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Donc là, notre verset 29 nous disait qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, on n'est pas obligé de parler tout le temps, hein? Mais si tu parles, dis les bonnes choses. Dans diverses réunions, des réunions syndicales, des réunions de comité, on entend des gens crier, revendiquer, puis dire « on a le droit de parler, empêchez-nous pas de parler ». Comme chrétien, oui, aussi, on a le droit de parler, mais on n'a pas le droit de dire n'importe quoi et on ne veut pas dire n'importe quoi. Avec ces beaux versets-là de la parole, moi, le premier, chacun d'entre nous, on dit « Seigneur, j'ai à cœur de me revêtir de l'homme nouveau, puis ce qui va sortir de sa bouche, ça va faire du bien. Ça va être des paroles d'amour, ça va être des paroles d'encouragement. Les gens vont être touchés, les gens vont apprécier ce que j'ai dit, puis c'est ça qu'on veut chacun entre nous, chacun de nous, c'est ce qu'on veut dire. Notre liberté d'expression en tant que croyant est limitée et déterminée par les principes de Dieu. Et c'est tellement bon juste de se rappeler, je veux que mes paroles servent à l'édification puis communiquent une grâce. Quelle belle expression. Hein, le passage, mais s'il y a lieu qu'il sorte quelques bonnes paroles qui servent à l'édification puis qui communiquent une grâce. On a vu beaucoup ce qu'il ne fallait pas faire. On a parlé un peu en même temps de ce qu'il fallait faire, mais là, on veut mettre l'accent là-dessus. Un des buts de l'Église, et on le voit dans Éphésiens tout le long, c'est l'édification de ses membres. Hein? Dans Éphésiens 4, on a ce bel exemple que l'Église, c'est comme un corps qu'on est lié par des jointures, par des tendons, qu'on a des os, puis qu'on est lié, puis que le corps, quand il est tout articulé comme ça, ben la main peut aller chercher de la nourriture pour l'amener à la bouche, puis la nourriture va donner de l'énergie aux muscles, puis on s'édifie comme ça dans l'amour. On est en train de se faire du bien, hein? Ben, ça arrive jamais que la main elle pogne un couteau puis qu'elle l'envoie dans le bras. Non, on veut s'édifier comme un corps. Et ça, c'est le but de l'Église, que l'Église soit quelque chose de beau, quelque chose qui reflète la personne de Jésus, l'amour de Dieu qu'on est en train de vivre. Donc, on veut se faire du bien. Donc, quand on a des paroles qui communiquent une grâce, qui servent à l'édification, oui, on veut les dire. Communiquer une grâce, hein? Que ça puisse amener une bénédiction, que ça puisse profiter, que ça puisse faire du bien. Les conversations qu'on a entre chrétiens devraient devenir une source de bénédiction. Ça devrait nous encourager. À la fin de l'Église, hein, on aime les messages, puis on aime le temps d'adoration, mais ce qui est toujours aussi une partie importante, c'est quand on parle un peu ensemble avant, c'est quand on parle un peu ensemble. Puis je sais pas pour vous, mais moi, la plupart du temps, quand je parle avec vous, quand je parle avec mes frères et sœurs après les réunions, ça me fait toujours du bien. Je suis toujours content. C'est comme ça depuis presque 40 ans. Quand j'étais pas pasteur, j'étais un des derniers qui fermait l'église parce que j'aimais ça, jaser avec le monde. Puis quand j'étais pasteur, j'étais un des derniers partis parce que j'aimais ça, jaser avec le monde. J'aimais ça, m'informer. Donc, quand on parle ensemble, on s'encourage. Comment on peut le faire? On peut le faire en remerciant, hein? En reconnaissant tout ce que les autres font, en exprimant notre appréciation, de faire des compliments. Un chercheur a démontré qu'on pouvait vivre 9 mois sur un compliment. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un bon compliment, là, puis quand, tu sais, c'est fondé, puis vous comprenez en quoi il vous remercie, puis que ça, là, vous allez vous en souvenir longtemps. Des fois, on fait le contraire, on se souvient plus des critiques. Des fois, il y a une personne qui nous critique, puis une personne sur 10, puis les autres sont contents, mais ils ne disent pas trop. Complimenter, encourager, toujours quand on le pense vraiment. Dire du bien des gens devant d'autres. Hein? Si on parle de quelqu'un qui n'est pas là, puis qu'on est en train de mettre en évidence les beaux côtés de ce frère, les qualités de cette sœur, notre appréciation, hey, on communique de la confiance. Hey, c'est comme ça qu'ils vont parler de moi quand je ne serai pas là. Wow, j'aime être dans cet environnement-là, puis je veux contribuer en communiquant des grâces, en appréciant les gens, puis en l'exprimant. Les mauvaises paroles peuvent vraiment enlever la confiance, l'harmonie, refroidir l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais les bonnes paroles ont une puissance incroyable. Les bonnes paroles élèvent l'âme, élèvent le cœur, elles nous édifient, elles nous encouragent. Et chacun d'entre nous, on veut devenir, en étant renouvelé, on veut devenir ce genre de personnes qui font du bien aux autres par nos paroles. Dans le passage parallèle ici, dans le bas, Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez en parole, hein, c'est-à-dire en parole ou en œuvre, quoi que vous fassiez en parole, faites tout au nom du Seigneur. Et quoi qu'on dise, on veut le faire pour Dieu en cherchant à suivre ses directives. On veut être renouvelé dans la sainteté par la vérité. Et dans ces deux versets-là, avec les passages parallèles dans Colossiens, avec l'ensemble des versets qu'on a vus, on a des vérités incroyables, précises, claires. Voici ce qu'on doit plus dire, puis voici maintenant avec le Saint-Esprit ce qu'on veut dire en grandissant dans la sainteté. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, on vient devant toi vraiment avec... en dépendance, Seigneur, en te disant, Seigneur, on a besoin que tu nous aides à avoir ce genre de discours-là. Autant, Seigneur, tu nous connais, chacun d'entre nous, on peut être des gens critiques, on peut être des gens qui n'osent pas adresser le problème, donc on reste dans notre coin puis on passe son temps à se plaindre. Autant on peut avoir une vision négative des choses. Seigneur Jésus, tu vois que c'est ancré en nous, dans notre vieil homme, dans notre ancienne vie, de se laisser aller puis de dire des choses qui blessent, des choses que toi tu appelles des mauvaises paroles. Seigneur Jésus, apprends-nous à être transformé vers toi, à t'amener dans la prière ce qu'on n'aime pas, ce qui est dur dans nos vies, puis après ça, qu'on puisse décider de te faire confiance, de remercier, de parler avec amour, mais avec vérité aux gens qu'on a besoin de faire et de faire en sorte qu'on s'édifie les uns les autres de cette façon-là. Merci Seigneur que tu nous dis que un des buts qu'on puisse avoir quelques bonnes paroles, cet ensemble des bonnes paroles, le but, c'est qu'on se fasse du bien les uns et les autres. Le but, c'est qu'on puisse vivre ton amour, l'amour fraternel, qu'on puisse vivre ces relations bienfaisantes où on est en train de s'édifier, où on trouve que c'est agréable d'être avec les frères et sœurs parce que c'est différent des autres milieux, puis qu'on est en train de se bénir les uns les autres. Seigneur Jésus, prends ma bouche, prends chacune de nos bouches, Seigneur, pour nous aider à parler comme tu le désires. On te le prie en ton nom. Amen.